que ça veut dire quoi? Que ça veut dire quoi? Mais c'est peut-être ce que j'avais envie de dire. Oui, c'est une vision des choses. Alors si on prend le problème l'envers, En tout cas, merci à vous.
Bonjour et bienvenue sur Bagro Point. Nous sommes en direct du dimanche 19 février au moment de l'enregistrement de cette émission. Nous sommes le minuit 56, c'est DMDJC derrière le micro et vous écoutez Riversal. Qui n'a jamais acheté ou utilisé de DLC? Vous savez, ces petits morceaux d'informations complémentaires à votre jeu pour améliorer, le compléter, le corriger ou le finir quand il est développé à l'arrache. Je vous propose ce soir une émission autour d'un sujet polémique où nous allons essayer de comprendre l'intérêt du DLC, leur utilité ou leur bien fondé. Autour de moi, j'ai Hatsal de Bagro Point.
Bonjour Hatsal.
J'ai Rikyo de Signet de Ball Air.
Salut tout le monde.
J'ai TKO du Versus Dojo.
Yosh.
Et j'ai Nabil de Fight Play.
Salut tout le monde.
Alors messieurs, avant de démarrer au sens propre du terme, qui peut m'expliquer ce que c'est et ce que veut dire DLC?
DLC,
je peux le faire si tu veux.
Ouais, vas-y.
Bah, littéralement, c'est du contenu téléchargeable. Ce qui veut dire, enfin, ce qui ne veut pas dire que c'est forcément payant. Parce qu'actuellement, maintenant, le problème, c'est qu'à partir du moment où tu dis DLC, tout le monde s'attend à devoir raquer.
Donc, déjà, il existe plusieurs types de DLC.
Exactement. Ouais. Et souvent, le DLC, comme on l'appelait avant, était souvent référencé soit à des packs additionnels ou à des patchs. C'est ce qui était souvent la règle. Et la référence dans tout ce qui est dans le monde du PC. Et par exemple, quand on disait ton jeu va être mis à jour, tu allais avoir des nouveautés, et tu, par exemple, il y a des changements, un truc a été craqué, on allait le changer. Et tu avais des nouveautés qui n'étaient pas payantes. Genre, quand maintenant on dit que t'as un pack de cartes que tu vas payer 15 euros, ben il était gratos. Et souvent, c'est ce qui a régulièrement aidé la communauté PC à évoluer, certaines manières, parce qu'en plus on avait un code source qui était souvent filé très rapidement. Et que les communautés à côté venaient à développer des modifications qui, pareil, aussi étaient du contenu téléchargeable et par... comment dire... Si on venait à étendre un peu plus, certains venaient à carrément bosser en collaboration avec les éditeurs et à te fournir du nouveau contenu qui te donnait une expérience de jeu différente, mais qui restait gratuite également, sauf si en... sauf certains cas, mais c'est après quelques années où le... comment dire, la méthode a fait ses preuves. Voilà, mais d'une certaine manière, le contenu téléchargeable, c'est juste quelque chose que tu télécharges.
Je sais pas si DLC, c'est contenu téléchargeable, enfin, il y a une abréviation plus commerciale, je crois.
Je crois que c'est download content.
Ouais, mais c'est la même chose, ça, hein. C'est ça, contenu c'est téléchargeable. Hein.
Non, c'est juste ça. Pour expliquer le DLC. Ouais.
Mais d'une certaine manière, c'est même.
Ça veut dire quoi le C?
Dans l'ordre à l'anglaise.
Hein. Mais d'une certaine manière, quand on y pense maintenant, en fait, à partir du moment où tu penses de DLC. Et c'est pour ça qu'on fait la grosse différence, c'est ce qui se passait sur PC avant, quand on disait « Ouais, il va y avoir un patch, il y aura des nouveautés », t'es là « Ouais !» Maintenant on dit « Ouais, il va y avoir du DLC, oh putain, je vais encore devoir payer 10 euros pour finir mon jeu !»
Donc voilà, donc on a déjà plusieurs types de DLC, donc DLC, on le rappelle, ne veut pas dire payant, et puis même dans les choses payantes, il y a plusieurs types de DLC, mais on va y revenir dans un court instant.
À ne pas confondre avec le DLC.
qui va sortir du coup sa deuxième version incessamment sous peu. Et du coup, quel est le premier jeu de combat qui a eu le droit à ces DLC?
C'est Soul Calibur 4.
Où il y avait donc...
On a eu des costumes, mais surtout ce truc qui a fait chez beaucoup de gens, c'est que le perso exclusif des deux consoles était disponible en DLC quelques mois après la sortie du jeu sur l'autre plateforme. Donc par exemple, si tu achetais ton jeu sur Xbox, bah, tu avais Darth Vader en DLC, il me semblait que c'était 400 MS points à l'époque, et l'inverse sur l'autre plateforme, donc tu récupérais Yoda pour le même prix.
Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, du coup, parce qu'on a l'impression que les choses changent au fur et à mesure, et la question que moi je vais véritablement vous présenter, enfin vous poser ce soir, c'est le DLC est-il le futur standard du jeu de combat? Qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de quelques mois? Pourquoi tout d'un coup c'est devenu le nouveau standard? Et qu'est-ce qui fait que les jeux aujourd'hui ne fonctionnent plus autrement que par DLC? Est-ce que déjà le DLC est obligatoire pour jouer? Et Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, en fait, il y a aussi une demande de la part de joueurs, puisqu'il y a une communauté qui le demande également, des évolutions du jeu qui en passent par ce fameux DLC?
Je vais répondre très rapidement, en fait, en donnant des éléments en fait, de DLC qu'on peut retrouver. Et je vais vous expliquer en quoi, en fait, vite fait, très rapidement, ils sont importants dans le jeu. Déjà, il y a une catégorie qui est la catégorie du DLC, en fait, anti-feignant. C'est-à-dire que c'est en fait les DLC qui vont vous permettre d'aller très rapidement dans l'essentiel du jeu, c'est-à-dire par exemple débloquer des personnages. Il y a des DLC qu'on peut retrouver comme ça pour pouvoir accéder à ces personnages assez rapidement. En général, ils sont pas gratuits, ces DLC, mais ils sont à un prix très raisonnable afin que vous puissiez accéder à ces personnages.
Grosso modo, c'est où tu décides de jouer à ton jeu, voilà, de débloquer les personnages, où tu racks, et dans ce cas-là, tu as tous tes personnages.
Je pense que ça revient à 2€. Pour BlazBlue, c'était 80 MS points pour récupérer Mew. Voilà.
Moi, personnellement, je pense que, on va dire, tu as plusieurs types de DLC. Tu as le DLC, on va dire, la mise à jour, un petit peu comme tu l'as dit, Tsal. Il y a qui est la base de la DLC, vraiment la mise à jour. Voilà. Et ensuite, il y a eu toute l'évolution commerciale où ça commençait à avoir un aspect où tu pouvais soit vendre des extensions en termes de personnages, de stages, etc., voire même vendre des jeux.
Alors là, particulièrement, nous qui sommes tous ici autour de cette table spécialisée dans le jeu de combat, quels sont les types de DLC qui posent réellement problème, notamment dans le domaine de la compétition?
Ah bah, c'est les personnages.
Ouais, les personnages.
Ça, c'est la priorité. Ça, par exemple, on l'a vu, on fait ce podcast justement lors de la WGC, c'est moi qui me suis occupé du tournoi KOF. On avait facilement au moins un joueur sur deux qui joue actuellement un personnage DLC. Donc, ce qui prouve que l'utilisation de ces personnages est importante et qu'on ne peut pas se passer de ne pas au moins les acheter pour les essayer. Ouais. Donc, et pour au moins les jouer, les connaître, etc. au niveau compétition déjà. C'est très important de les connaître. Donc, ça montre que ces personnages ont vraiment une dimension importante dans le jeu. Par exemple, par rapport à Street. Quand on a eu l'arrivée de Yun et Yang et de Evil Ryu et d'Evil Gookie, on voit que cette mise à jour a été importante et qu'elle a rallongé en même temps aussi la durée de vie du jeu et que le jeu a pris un an de compétition supplémentaire.
Alors, on peut peut-être nuancer du coup la différence entre une nouvelle mise à jour d'un jeu, comme Capcom d'ailleurs l'a toujours plus ou moins fait. Oui. Il y avait une cassure entre guillemets entre le gameplay d'un Hyper Fight Tick et d'un Super Street Fighter 2, où il y avait effectivement 4 personnages supplémentaires, mais entre guillemets c'était plus tout à fait le même jeu. On peut éventuellement considérer que Super Street 4 Arcade est pas le même jeu que on peut le considérer que le jeu précédent. La question qu'on va se poser derrière, c'est qu'est-ce qui se passe pour les jeux du coup qui ne sont pas de nouveaux jeux, mais qui proposent des personnages complémentaires. Et là, puisque vous parliez de KOF 13 à l'instant, le souci qu'on va rencontrer, c'est que ces personnages-là seront disponibles dans la mise à jour arcade, sauf erreur de ma part.
Tout à fait. La mise à jour arcade qui n'est toujours pas en fait annoncée, enfin, du moins la date de sortie n'est pas annoncée, mais ces personnages là vont être disponibles sur la version arcade. Donc qu'est-ce qui va se passer pour la version console? C'est uniquement une supposition, bien sûr. La version arcade subit aussi bien donc l'ajout des personnages, mais aussi un rééquilibrage du jeu. Donc ce qui veut dire que s'ils veulent être en adéquation avec cette version arcade, il se peut qu'on aura un DLC peut-être payant ou gratuit, on verra bien. Mais est-ce que les personnages seront donnés à titre gratuit? Et donc, ce qui serait dommage
pour les gens qui ont acheté
les personnages. Je ne le vois pas comme ça. Je pense qu'il y aura un premier download content pour la version Climax, en fait, de KOF 13. Et un autre DLC, peut-être pack, qui ralliera tous les personnages de la version arcade, les 3 personnages bonus plus les 2 à débloquer. Voilà.
On va rester sur le domaine du versus fighting, mais pour prendre globalement, le DLC c'est quoi? T'as soit du DLC gratuit, soit du DLC payant. Du DLC gratuit, de la mise à jour, DLC gratuit, des démos qui permettent de tester en avant-première des jeux, qui peuvent être soit des jeux de combat ou autres jeux. Donc le bon côté, ça te permet par rapport à une certaine époque où tu pouvais pas te tâter un jeu, d'avoir la possibilité de le faire. Donc là, on va dire, c'est quand même quelque chose de positif. Donc toute cette partie-là, on va dire, gratuite de mise à jour, de rééquilibrage sur les produits que tu as payés pour te permettre justement d'être à la page et de pouvoir étendre la durée de vie, comme l'a dit Rikio, en termes de rééquilibrage, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas forcément négatif. Surtout que, enfin voilà quoi, quand tu vois par exemple les disproportions qu'il y a pu avoir dans le arcade édition et justement le fait que certains persos étaient nerfés par la suite, bah tu vois que le DLC a été quand même positif. Puisque quelque part, ça a permis de rééquilibrer le jeu et peut-être justement de moins frustrer certains joueurs. Ensuite, si on rentre dans le débat du DLC payant, c'est là où ensuite il y a des questions qu'on peut se poser justement sur l'évolution et sur les dérives qu'il peut y avoir. Puisque effectivement, moi, tu vois, je suis le premier à reconnaître le travail d'un éditeur, quel qu'il soit, au niveau du contenu qu'il propose, etc. Quand par exemple tu vois dans KOF 13, pour ne citer que lui, la qualité du contenu qui est proposé au niveau des personnages, etc. et tout, tu te poses pas forcément la question. Mais lorsque par exemple le DLC en question, c'est t'achètes des couleurs, t'achètes des trucs, on va dire un petit peu cheap, tu vois ce que je veux dire, qui ne changent en rien le jeu, et que là on rentre vraiment dans le côté mercantile, que ça améliore pas forcément le jeu, et que là on est vraiment dans le côté business, là ça peut poser un problème. Parce que bien sûr, ensuite tu diras, le but d'un éditeur, c'est de gagner sa vie, c'est de faire des sous, etc. Mais sincèrement, c'est un petit peu, tu vois.
À la rigueur, j'avais peut-être un point de vue qui est. Vas-y, tu allais dire quelque chose.
Dire comment il faisait avant, quand il n'y avait pas de DLC, et pourtant ça fonctionnait. Donc.
La différence, elle est qu'il faut bien remettre ça en cause, enfin remettre ça en compte plutôt. Si le DLC n'est pas arrivé avant, c'était qu'il y avait un problème d'architecture technique. Parce que
je pense pas.
Si on reprend au niveau de la console, si on s'est tapé des Super Street Fighter et des trucs comme ça à pas en finir pendant des années avant, c'est que les consoles ne pouvaient pas permettre un accès internet correct. Deux, de pouvoir avoir du stockage.
À partir de la Saturn, on pouvait le faire. Alors,
sauf que ça a commencé sur la Xbox.
On pouvait le faire avant, donc c'est pas un problème technique.
C'est un
problème commercial.
C'est un truc qu'ils ont commencé à faire
plus tard. Un modèle commercial qui est nouveau et qui s'appelle tout simplement le modèle de la banane. C'est-à-dire qu'on vous vend un jeu qui n'est pas fini.
Ah oui, non, attends.
On vous vend un jeu alpha, d'accord. Ensuite, on vous fait un DLC bêta pour ensuite vous vendre une version XX ultra machin. Qui, elle, sera la
non,
version
non,
finale.
Non, je suis tout à fait d'accord.
Au final, on a acheté 4 jeux pour le prix d'un.
C'est
aussi simple que ça. En dehors du fait qu'il y ait des DLC un peu bidon, les costumes, machin.
Moi, je suis à peu près d'accord avec toi, sauf que ce modèle économique dont tu parles, c'est ce qui est en train de se mettre en place.
Maintenant, ouais.
C'était pas encore le cas jusqu'à maintenant.
Oui, donc c'est pas un problème technique. C'est-à-dire, techniquement, avant, on pouvait faire ce qu'on voulait.
Même si c'était possible, il faut quand même rappeler que le temps qu'Internet se démocratise et que maintenant. Non, mais si, c'est la réalité. Le temps que Internet arrive dans les foyers, que ce soit à des prix raisonnables, je suis désolé. Mais avant, à part être une entreprise. Avoir des bons moyens, être entre guillemets riche, Internet, c'était pas forcément accessible.
D'accord, là on parle de ça en France. Là on parle de ça en France. Aux États-Unis, ça s'applique pas, ta théorie. Vu qu'aux États-Unis, ça fait 15 ans qu'ils ont Internet au débit.
Oui, mais...
Et parlons du Japon, si ça fait. Techniquement, c'est pas un problème. Moi, l'excuse qu'on me dit problème technique, je suis pas d'accord.
Moi, j'irais pas jusqu'à dire.
Parce qu'à partir du moment où il y a un port RJ45 derrière ta console, c'est plus un problème.
Mais qu'on vient de mettre un truc en avant. La première console qui a commencé à proposer un support online correct, c'était la Dreamcast.
Ouais.
Mais tu fonctionnais sur du 56K. T'avais une connexion à chier quand tu jouais à Phantasy Star Online ou à Quake 3 Arena. C'était pas génial, et quand tu jouais à Quake 3, tu te faisais bourrer par le joueur PCiste. Il y avait déjà un problème. Le truc, c'est qu'il n'y avait pas forcément une structure qui te pouvait te permettre, ce qu'avait donné le Xbox Live plus tard en arrivant sur l'Xbox, de te permettre de te vendre quelque chose et de le revendre directement d'un serveur sur le truc.
Moi, je pense qu'il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a l'aspect technologique et il y a l'aspect des mentalités. L'aspect technologique, c'est-à-dire que même si techniquement il était possible, je pense pas que c'est le but du débat, techniquement, faut quand même dire qu'à l'époque, c'était pas aussi étendu, tout le monde n'avait pas internet partout, c'était en pleine expansion, enfin voilà.
Commercialement, c'était
commercialement,
pas jouable.
Et même techniquement, les débits n'étaient pas aussi importants, ça allait pas aussi vite, etc. Premier point. Deuxième point, les mentalités. À une certaine époque, on était plutôt sur des formats matériels, des formats physiques. Là, maintenant, les mentalités ont totalement changé. Maintenant, ça ne dérange plus personne d'acheter des choses dématérialisées. Et on le voit très bien avec la musique. Beaucoup pensaient que le format économique, le modèle économique, entre guillemets, du son, ça s'arrêtera, on va dire, à la partie matérielle, etc. Et maintenant, on se rend compte que maintenant, le plus gros des ventes se fait de manière dématérialisée pour la simple et bonne raison que dorénavant, c'est rentré dans les mœurs, etc., de pouvoir payer du contenu téléchargeable. Ça choque plus personne, alors qu'à une certaine époque, et moi-même le premier, payer un truc virtuel, etc., c'était pas possible. Moi, il fallait que j'ai mon truc physique, comme n'importe quel talk, c'est n'importe quel geek, d'avoir ton petit jeu avec ta petite notice, etc. Maintenant, ta notice, c'est du PDF, ta jaquette, etc., enfin voilà, il n'y en a plus vraiment besoin, etc. Donc maintenant, dans les mentalités, prendre du DLC, ça pose plus.
Mais pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, ce qui paraît bizarre du coup là en tant que consommateur, c'est que finalement tu as moins puisque tu as pu le disque, tu as pu etc. et tu payes plus cher. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a un petit côté qui est pas très agréable dans la bouche, on va dire, comme goût.
Bah de toute façon, je vais laisser intervenir, mais juste pour parler de mon point de vue. Moi, je suis premier fan du côté matériel d'un objet.
On en a déjà parlé ensemble, voilà. Je connais ton point de vue là-dessus.
Je kiffe les ambiances de jeu rétro à l'ancienne. Chez moi, j'ai Final 3 US avec boîte et les cartes à l'ancienne, etc. Enfin, je kiffe ça. Maintenant, la réalité des choses, c'est qu'on vit dans un monde qui va de plus en plus vite. Et t'es bien content d'éviter de sortir ta carte de Final 3, etc. et de l'abîmer et d'avoir le PDF que tu peux zoomer dans tous les sens, etc. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça arrange quand même beaucoup de personnes quand, par exemple, au lieu de te trimballer le guide de Super Street Fighter 4 Arcade Edition avec toi, tu l'as sur ton PC ou sur ton
téléphone, ouais.
En PDF, et tu tournes les pages et ça te pèse que 100 grammes au lieu de te taper les 400 grammes du bouquin, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a quand même, si tu veux, le côté pratique du côté dématérialisé qui a son avantage par rapport au fait que tu peux acheter directement un truc chez toi, t'es pas obligé d'aller en magasin. Enfin,
c'est pas. La seule différence, c'est qu'en fait, il faut partir du principe qu'on parle de deux choses. C'est soit les choses dématérialisées. Et là, j'ai pas l'impression qu'on appelle ça un DLC. Parce que pour moi, un DLC, j'ai l'impression qu'on achète d'abord un jeu, on achète d'abord un produit, et ensuite on a une extension ou un plus, voilà. Après. Voilà, il y a aussi télécharger un jeu entier pour l'avoir sur son disque dur et pas avoir à l'avoir sur CD pour pas le rayer parce qu'après c'est fini. Hein, pour ça, je suis d'accord avec toi que sur le principe, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Le nombre de CD PlayStation 2, PlayStation 3 qui ont été rayés pour rien d'ailleurs. Voilà, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Maintenant, est-ce que au niveau des comment expliquer ça, est-ce qu'au niveau commercial, est-ce que pour nous c'est rentable? C'est là où je m'aperçois qu'en fait, on devrait payer moins cher un jeu DLC. Techniquement, vu qu'il n'y a pas de livraison, il n'y a pas de presse. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas de plastique, il n'y a rien. Donc, en gros, il y a juste un serveur dans lequel on met des fichiers et puis il distribue au reste du monde. Donc, le payer plus cher, en plus de ça, payer des extensions, je trouve ça beaucoup plus difficile à digérer en tant que consommateur. Surtout venant du PC, je pense que je ne suis pas le seul ici, où on a eu l'habitude d'avoir tous les patchs, tous les nouveaux stages, nouveaux gratuits.
Voilà. Donc, je voulais répondre.
Et c'est ça qui faisait la durée de vie du jeu d'ailleurs.
Exactement.
Parce qu'un jeu, il restait longtemps parce que c'était gratuit après.
C'est ça. Je voulais reprendre ce que Zinabil tout à l'heure, ce modèle de la carotte. Et quand je parlais en fait d'architecture technique, c'est que c'est vraiment le modèle, à partir du moment où la console a pu avoir quelque chose de correct au niveau de l'internet, une architecture suffisante. Qu'on a vu se démolir de DLC à partir du moment où je te file du contenu, tu le payes. Parce que si tu reviens avant, quand tu avais une version mage de Street Fighter, tu l'as payé 500 boules. Quand tu jouais sur PC au même moment, tu jouais Half-Life, tu jouais Baldur's Gate, n'importe quoi, ton extension, tu l'as payé 150 balles. Et t'en avais peut-être deux fois plus que ce que tu récupérais dans ton jeu à 500 balles.
Complètement, ça là-dessus.
Et ça, le PC a toujours été en avance, mais. Et elle est toujours encore sur un certain modèle. Ouais. Et le DLC a commencé sur console et a commencé à s'installer graduellement sur PC. Parce que maintenant, quand tu vas sur Steam, t'as certains jeux qui te proposent du DLC. Et c'est un truc, au début, on trouvait ça inimaginable. On était là, mais foutez de notre gueule, c'est une communauté open source, on a fait tout nous-mêmes. La gratuité et l'échange est la base de la communauté PC, donc vous faites pas chier avec ça. On paye du contenu à partir du moment où c'est développé par l'éditeur et le truc va avec. Mais d'une certaine manière, tu sais que tu payes un truc qui, d'une certaine manière, coûtera beaucoup moins cher que ton jeu, le complète. mais va trouver une nouvelle expérience. Donc tu avais une nouvelle campagne, tu avais des trucs en plus, mais souvent c'était vraiment une grosse plus-value.
Alors, je voudrais nuancer sur deux aspects. Ça, parce qu'en plus, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et pour aller dans ton sens, moi qui ai tous les streets à la maison, des francs ou des euros, j'en ai dépensé quelques-uns. Il y a des plateformes qui étaient en plus plus ou moins onéreuses. Mais on est tous ici plus ou moins liés au monde de la compétition du jeu de combat. Il y a un aspect qui est non négligeable, c'est que un jeu, à un moment donné, il faut qu'il ait un début et une fin. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur une version technique où on dit dans cette version il y aura tant de personnages, ils pourront faire telle chose, il y a telle chose qui sont permises, d'autres qui ne sont pas permises. Là aujourd'hui le problème c'est qu'on propose à des gens d'acheter un bout du jeu et que derrière il y aura peut-être des personnages supplémentaires. Parce que tout à l'heure tu disais les couleurs ou les stages, dans l'absolu je m'en fiche, c'est-à-dire que moi si j'ai pas tous les stages ça m'embête parce que moi je les avais avant gratuitement, ça faisait partie du jeu, mais ça ne m'empêche pas de jouer. Si j'ai pas la couleur de Chun-Li où elle est à moitié à poil, ça ne m'empêche pas de jouer le personnage. Pour autant, si tout d'un coup j'ai pas le nouveau perso, même si je décide de pas le jouer, je suis obligé de le jouer à haut niveau, je suis obligé de savoir comment il fonctionne, je suis aussi obligé de savoir ce qu'il est capable de faire. Donc on m'oblige, parce que je fais de la compétition, je suis obligé de payer ce personnage parce que sinon je suis lésé par rapport aux autres joueurs. Et ça c'est un aspect du DLC que je trouve réellement handicapant.
Alors juste une précision quand même, parce que ce soit bien clair, moi mon avis n'est pas arrêté, n'est pas tranché sur le DLC, le fait que j'en pense que ce soit quelque chose de bien ou pas. Maintenant je pense qu'il faut quand même différencier deux choses par rapport, on va dire, au DLC payant et ce qu'on est en train d'aborder par rapport au versus fighting. Tu vas avoir d'un côté le jeu qui a, entre guillemets, qui a été terminé et où tu as du bonus. Tu vois ce que je veux dire ? Je te prends un cas par exemple, Yakov 13, il est sorti en arcade, il a eu sa petite vie, etc. Et le jeu, entre guillemets, en lui-même, par rapport à la version originale qu'il y a eu, il est complet. Même il est au-delà, il est plus que complet. Et le DLC qui en plus, c'est quelque chose qui est supplémentaire.
On est d'accord.
C'est voilà.
Maintenant, il y a eu un vrai travail. Il y a eu un vrai travail derrière des personnages. Donc, quand on sait le prix des personnages en plus sur KOF.
Donc là, par rapport à ce cas-là, on va dire, si tu veux, ça me choque pas trop. Ensuite, on pourra revenir sur le prix, etc. Maintenant, si effectivement on parle d'un nouveau format économique, où comme tu l'as dit, t'achètes une moitié de jeu où il y a quasiment rien, et que t'es obligé d'acheter la grosse partie du jeu par petits bouts, là je suis pas forcément d'accord.
Mais même pour revenir à KOF 13, moi KOF 13,
si tu veux, l'œuvre en elle-même qui est globalement complète et où t'achètes des bonus, et le truc qui est vendu vite fait et où tu dois acheter des morceaux du jeu en mode Lego pour arriver à avoir, entre guillemets, une œuvre à peu près complète. Et là je suis pas forcément pour cette nouvelle forme, parce que là effectivement,
alors je fais la nuance entre un Marvel versus Capcom 3 où t'avais déjà les personnages qui étaient sur plus ou moins sur la galette, qui sont vendus en DLC quelques jours après, et un KOF 13 où effectivement les personnages sont faits après. Le fait est que dans tous les cas de figure, il y a une version climax qui va sortir derrière en arcade avec ces personnages là donc de deux choses l'une, où on considère que c'est des personnages bonus qui du coup par principe ne sont pas joués en compétition parce que tout le monde ne les a pas, ou on accepte qu'ils sont joués en compétition, et dans ce cas-là, on sort pas les personnages séparément, mais on propose un pack en disant voilà, il y aura une version climax qui va sortir derrière. On vous propose de mettre à jour à peu de frais votre version avec la version climax, et tu achètes la version climax peut-être à 15 euros au lieu de le payer 70 euros, et c'est un DLC. C'est ça. Là, ça ne me pose pas de problème.
Et je suis bien d'accord avec ça. Là, actuellement, le problème, quand on en revient à ce que disait Nabil sur le système de business model, c'est pas le contenu qu'on te donne, c'est le système de l'offre. Ce qu'on te propose actuellement, on te vend du perso à l'unité, ou on te vend des conneries à l'unité. Si on venait par exemple à te proposer un petit pack, une sorte, on va te dire, voilà, ton jeu a vécu. Il a vécu, je sais pas, ça fait peut-être 6 mois, 7 mois qu'il est sorti, qu'il a déjà bien fait son truc. Et tu sens qu'il y a quelque chose. Soit c'était de la demande, alors ça dépend, soit ils cèdent à la demande du fan service, soit ils vont dans un truc où ils se disent, bon, le jeu commence un petit peu à en pâtir, il y a des corrections qui nous ont été demandées.
Il est temps
d'y aller pour se lui donner une vie un peu
d'accord.
plus prolongé.
On est d'accord.
Et de venir ajouter du contenu et dire finalement, si je viens vendre mon pack, je le vends 15 euros, c'est une extension truc, tout le monde aura le même truc. À savoir peut-être même à se dire, je coupe mes serveurs multi entre les mecs qui auront une version d'origine pour pas qu'ils soient lésés et les autres qui décident de passer sur l'autre. Et là, effectivement, on se dira, bon, ben mon jeu évolue, il a ça, tout le monde est au courant des évolutions et l'évolution compte en même temps les persos qui vont avec. Et là, finalement, donc on aurait deux évolutions de version qui sont très très loin du fait de je paye mon perso, mais tu verras, tu me prends ça sur ta nez, je te défoncerai la gueule parce que tu connais pas mon perso. Oui. Ou même en tournoi, de toute manière.
Moi, par contre, j'ai plusieurs réserves par rapport à cette chose-là pour des raisons très simples. Le souci, c'est que on est dans un monde qui va très très vite, d'accord. Et le problème, c'est que le buzz et on va dire la rayonnance médiatique,
la hype
qu'il y a autour d'un jeu, se fait par rapport à des périodes et s'estompe par rapport à tout ce qui peut se passer au niveau de l'actualité. Le souci, c'est que moi, je suis d'accord avec toi par rapport au fait de faire quelque chose, on va dire, par étapes et non de le faire de manière distillée. Mais le problème, c'est que voilà, on est dans un monde au niveau business, commercial, médiatique, ce que tu veux, qui fait que si tu gardes pas un minimum de vie et d'activité sur ton titre, eh ben ça se trouve, malheureusement, 6 ou 7 mois plus tard, tu sors ton truc, ça passe totalement à la trappe, et les mecs, la mode vis-à-vis du titre est passée. Donc, quelque part, même si je suis pas pour le fait que ce soit distillé par ça, je peux comprendre, si tu veux, que les mecs, pour faire vivre au fur et à mesure, tu vois, et maintenir la flamme, tu vois, ils soient dans ce sens-là. Ouais. Ensuite, pour rebondir vis-à-vis de l'histoire des tournois, parce qu'on parle du versus fighting, et si tu veux, du fait que des persos soient jouables, etc.
Bon, on pourra reparler du problème MK qui a eu lieu aujourd'hui. De toute façon, il y a eu des problèmes autour de ces...
Oui, mais maintenant, regarde, je vais donner un cas très simple. Il y a des persos, par exemple... Vous m'arrêterez si je me trompe, mais je crois qu'il y a des persos dans Soul Calibur 5 qui sont tellement craqués qu'ils sont pas en DLC, mais qu'on interdit directement parce qu'on sait qu'ils sont craqués. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que t'as pas forcément besoin d'attendre entre guillemets la DLC pour te poser la question si il faut ou non.
J'ai envie de dire que c'est un autre problème. C'est à la communauté de joueurs de dire ok, on met des limites. Il y a certains personnages qui dans tous les jeux ont toujours été interdits parce qu'on considérait qu'avec les infinis ou etc. C'était impraticable. C'était impraticable en compétition. Le souci à l'heure actuelle, c'est que ce soit de la part de la communauté des SNK, et ça n'était jamais arrivé avant. En même temps, il y avait jamais eu de perso en DLC de la part de la communauté de Capcom. Maintenant, non seulement les joueurs acceptent ces DLC, mais en plus les demandent. C'est-à-dire que les gens qui ont fait la démarche d'acheter ces personnages disent écoutez, moi j'ai taffé, je vois pas pourquoi je pourrais pas venir avec mon perso et le jouer. Mais si on accepte ces personnages-là, on oblige les autres joueurs du coup à les acheter.
Bah, en fait, on avait eu déjà bien avant même les DLC, sur la version Street 4 Vanilla, on pouvait débloquer 8 nouveaux persos.
Ah, effectivement, ça posait d'accord problème.
Et ça posait déjà problème du fait que comme on était encore dans la période arcade, pour valider certains personnages, les éditeurs
mettaient des codes,
les valident en mettant des load tests pour essayer de voir le ressenti des joueurs. Et surtout, les joueurs, eux, sont amenés à reporter les bugs aux éditeurs, d'accord, qu'ils trouvent lors de ces load tests. À partir de ce moment-là, du moment où on porte le jeu sur console avec des persos supplémentaires qui n'ont pas justement passé cette phase de load test, on ne sait pas à quoi s'attendre justement sur ces persos et comment ils vont interagir dans le jeu.
Oui, là tu fais référence à un double problème, c'est-à-dire que là, comme tu le dis, on sort du cadre du DLC.
Mais
c'est-à-dire
ça arrive, voilà, et ce qui peut aussi arriver dans le DLC, c'est qu'ils vont créer un personnage et que s'il n'est pas testé aussi bien que dans une load test qui dure un certain nombre de jours, eh ben, on peut avoir des cas avec des bugs et tout, comme bien sûr il est arrivé justement à KOF 13 très récemment.
Ouais, mais ensuite, à ce moment-là, t'auras des DLC qui te permettront de corriger,
voilà,
des
rééquilibrages, etc. Et c'est ce qui est arrivé.
Et d'ailleurs, ce qui est dans l'absolu, ce qui est normal. Et tant mieux,
mais maintenant, en fait, si tu veux, la vraie question, en fait, que ce soit bien clair, moi, je suis un pur puriste et moi, j'aime les versions originales qui, entre guillemets, ne varient pas.
Ouais,
c'est-à-dire, voilà, t'as le jeu, il est comme ça, 3-3, c'est comme ça, etc. Et même s'il y a des trucs qui me font chier, les Makoto, les Shani, etc., voilà, le jeu il est comme ça et
tu aimes ou tu aimes pas le jeu.
C'est voilà, etc. Exactement. Mais en même temps, je regrette le fait qu'il n'existe pas cette possibilité d'évolution parce qu'il y a des titres qui sont globalement bien terminés et tu dis ah, il manquerait peut-être ce petit truc en plus ou t'as envie qu'il vive plus longtemps. Je te donne un exemple. Moi, mon rêve absolu, c'est que Capcom, un jour, ils te sortent Hyper Street Fighter 3, qui te mettent des sagas, des add-ons, des guides à la sauce Street 3, etc. et tout. Tu vois, avec le même système de jeu, parce que pour moi,
l'environnement, le gros
du travail a été fait au niveau du gameplay, au niveau du truc, et il te manque plus que ça, tu vois, des persos en plus, etc. Tu vois, donc, Enfin voilà, ça veut dire que ensuite, si tu veux, même tu prends par exemple le cas de KOF 13. Les mecs, ils se sont pris la tête à te faire KOF 13. Tu vois ce que je veux dire ? Ils vont pas se prendre la tête à faire KOF 14. Déjà, le jeu, par rapport à ce qu'ils ont proposé en
termes de produits... Mais moi, KOF 13 Climax me va très bien. Hein.
Oui, non,
ce qui me pose problème, c'est vraiment les personnages vendus à l'unité. Non, on sait pas s'ils sont obligatoires ou pas.
Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'à un moment donné, comme on a pu le dire, lorsque l'éditeur doit proposer, entre guillemets, un produit fini, il doit arrêter une deadline pour dire, voilà, je vais te proposer à peu près ça, avec ce système de jeu, etc. Mais... le problème, c'est que par manque de temps ou par rapport à toutes les contraintes commerciales qu'il peut y avoir au niveau de la petite guéguerre, qu'il peut y avoir entre éditeurs, etc., sortir le jeu à telle date est primordial. Tu vois ce que je veux dire ?
Mais ça existait déjà avant.
Oui, non, mais...
moi, par exemple, sur la galette de Street 3, je peux te dire qu'Hugo existait déjà. Le personnage n'était juste pas terminé. Et ils l'ont mis dans le second impact.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que malheureusement, les mecs, ils ont dû se prendre... Enfin, à l'époque, tu pouvais pas acheter le jeu. Mais ce que je veux dire, malheureusement... soit tu tombes dans la banane où tu préfères acheter un personnage, ou soit tu tombes dans la banane où tu, comme ce qu'ils ont fait vis-à-vis de Street Fighter, ils te ressortent la galette, ou tu te prends la tête à t'acheter toute la galette d'un coup, tu vois ce que je veux dire, de t'acheter tout le jeu.
Je vois tout à fait ce que tu veux dire.
Mais tu rentres vraiment dans le côté grosse banane, comme tu pourrais dire, Nabil, où on te force limite à acheter la nouvelle galette.
Alors là, on a un double problème, c'est-à-dire que le problème du DLC, il est perçu différemment de par le joueur lambda, celui qui va acheter le jeu parce qu'il a envie de se faire plaisir, etc. Dit, ah putain, il y a le Kyo que j'aimais bien avant. Ok, l'autre, il m'intéresse pas, j'achète mon Kyo. Ok, très bien. Et effectivement, s'il y a des gens pour ça, je vois pas pourquoi les éditeurs se priveraient effectivement de vendre quelque chose qui de toute façon va se vendre. Tant mieux, et tant mieux, et tant bien, et que grand bien leur fasse. Le souci, là, en tant que joueur, c'est que quelle est la limite que va donner la communauté autour d'un jeu en disant à quel moment on décide d'accepter ou pas, et pourquoi cette limite, comment on va pouvoir justifier cette limite. Avant, on avait un jeu qui était terminé, on ne sortait pas de ce cadre-là. Aujourd'hui, à chaque tournoi, on est obligé de se poser la question de savoir ce qu'on va accepter ou ce qu'on n'accepte pas, où sont les DLC, ce qu'on doit télécharger ou pas, est-ce qu'on met à jour ou pas, quelle est la version auquel on va jouer. Street 3.3, on joue toujours à la version A, on pourrait très bien jouer à la version B. Il y a des mises à jour qui ont été faites. Hein.
Oui, mais le problème, c'est que la version B perdait de son intérêt par rapport au fait que
pour toi, mais peut-être qu'il y a des gens qui jouent la version B qui pourraient considérer.
Moi, à l'époque, je jouais sur la version. Dreamcast
qui s'appuie sur la version B.
Moi je me tapais des barres, j'étais content que le jeu commence à se démocratiser petit à petit. Moi, je vais être franc avec vous, moi il n'y a que très récemment, quand j'ai commencé à me prendre la tête, à ouvrir la salle, notre salle, le Versus Dojo, etc., que je me suis vraiment intéressé à ça, parce que les imbloquables, je calculais pas trop. Et les mecs, ils me disaient, c'est la version A, hein, c'est la version A que t'as mis dans la salle. Hein. Et c'est là que j'ai compris que, tu vois, enfin voilà, quoi que... Mais simplement pour dire que... La DLC, enfin, je sais pas, c'est... C'est ensuite, personne... On arrive quand même dans une évolution de l'époque.
Oh, c'est
qui
sûr,
fait
ça,
que je te donne un exemple très simple, mais pourquoi par exemple je suis obligé de revenir sur la musique, parce que c'est un petit peu dans ce secteur là que ça a commencé, son
tout
côté dématérialisé, du truc à la demande et à l'unité.
Sur PC peut-être, ça a commencé.
Moi aussi, je suis sûr c'est le PC qui est
vraiment sur PC, mais de manière moins commerciale, de manière moins commerciale,
moins démocratique peut-être.
Voilà. Ouais. Moi je parle vraiment le côté commercial. Oui. Pourquoi ? Parce que tout simplement, et je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table, il nous est arrivé d'avoir des artistes qu'on adore, et lorsqu'il y a la nouvelle galette qui sort, bah à part deux morceaux sur l'album, le reste avait envie de le jeter, et ça te prenait la tête de te payer toute la galette pour écouter les deux musiques. Donc, ce qui se passait, malheureusement, heureusement, ce que tu veux, avec les technologies, c'est que tu téléchargeais les sons qui te faisaient plaisir.
Alors,
tu vois ce que je veux dire ?
Mais restons sur ton exemple, très bien.
Et justement, les éditeurs au niveau musique, ils se sont rendus compte du truc, et ils se sont dit, bah tu sais quoi, tu vas acheter cette musique-là, peut-être tu vas la payer plus cher que si tu l'avais acheté dans l'ensemble de l'album, mais au moins... t'as la musique qui te fait plaisir, et tu vois.
Je pense qu'il y a un risque de dérive avec ça, comme tu l'expliques très bien, c'est que dans le versus fighting, ça risque d'aller beaucoup plus loin.
Tu peux pas suivre ce modèle.
On va dire techniquement, il pourrait suivre ce modèle, mais en gros, t'achètes l'écran d'accueil, en jeu, et ensuite les personnages c'est des DLC. Ouais.
Et tu prends les personnages qui t'intéressent et ceux que t'aimes pas, tu les prends pas. Mais, en suivant ton raisonnement, non mais je suis ton raisonnement.
Juste un truc, c'est un double tranchant parce que le côté quand même positif, c'est que si par exemple t'es un fan absolu de Yori, de Kyo et de trucs, ton jeu il va te coûter 5 balles. Et tu seras bien content parce que toi, de toute façon, jouer avec des petits poufs, genre les.
Oui, mais tu peux pas faire de compète. On est d'accord que tu peux pas faire de compète.
Enfin, tu vois les trucs qui te prennent la tête, etc. Et tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
Mais dans ce cas-là, tu ne feras jamais de compétition, on est d'accord.
Non, c'est pas vrai, puisque tu peux devenir très fort avec 3 persos et n'en avoir rien à foutre.
Non, mais on est d'accord que pour jouer vraiment à un jeu de combat, t'es obligé de mettre le doigt sur les autres persos pour comprendre leur mécanisme.
Non, justement. Pour devenir fort dans un jeu de combat.
Non, je pense pas. Il faut juste les affronter. Voilà. Moi, j'ai la même vision que TKO pour
moi,
ça.
Excuse-moi, je voudrais remettre le truc en cause. En fait, je pars dans la même direction. On m'a soufflé l'idée, c'est exactement le cas. Actuellement, il y a un truc qui s'est pas mal développé sur PC depuis quelques années. Avec le développement d'Ota et des MOBA, c'est qu'on commence à avoir des jeux qui sont jouables gratuitement, qui ont la même base. Mais le seul financement que tu vas venir à foutre dedans, c'est si tu décides d'acheter des personnages ou pas. Et ce qui fait que le perso en face, t'es pas forcément sûr de le connaître, mais tu vas l'affronter d'une manière ou d'une autre, mais t'es pas obligé de l'acheter. Mais le jeu est le même pour tout le monde.
C'est pour ça que je dis qu'ils vendront l'écran d'accueil, et puis le select personnage, on l'achètera.
Et
les stages.
Et on me souffle
que... Je pense que ça pourrait aller jusque-là, mais ça irait très bien.
Et peut-être même que ce qui va se passer, c'est qu'à force des... Je te donne un exemple. T'achètes 3 persos, ok. Bon, je sais pas pourquoi on est resté sur KOF, mais t'achètes par exemple un perso, le perso que tu kiffes, ok. Bon, maintenant, la vie.
Ouais, bon, d'accord, sur KOF, 3, c'est bien parce qu'il te faut une team quand même. Mais
okay. Ouais, effectivement. Mais le truc. KOF, en fait, c'est une vraie arnaque. Hein.
C'est un peu commercial comme jeu.
Hein.
C'est pas possible.
Je plaisante. Mais tu vois, par exemple, tu vas acheter les persos qui te font plaisir. Tu vois, tu vas jouer avec. Les autres persos ne t'intéressent pas du casse, etc. Je donne un exemple très très simple. Ce qu'on a pu constater, c'est que depuis qu'il y a un certain Punko qui joue 7. Comme par hasard, tout le monde commence à jouer 7. Moi, je me rappelle au début, 7, ah, c'est de la merde, la vie, barre en mousse, nanana, enfin, on va pas faire le débat. Et tout le monde a vu la lumière, le jour où Punko a mis la misère à des Japonais en faisant des combos craqués où les setups et les mind games, c'était la folie. Et ben, à ce moment-là, t'as la solution quand tu te fais dérouiller à l'infini de te dire... Ah bah finalement il est un peu sexy le perso, etc.
Il est un peu sexy.
Soit tu le prends, soit tu le prends pas. Enfin, si tu veux. Enfin voilà, ça veut dire que c'est à force de l'affronter, t'as deux solutions. Soit t'es un acharné. Moi je te prends mon cas par rapport à 3-3. Tu restes sur ton perso et tu vas essayer de le taffer au maximum pour trouver toutes les phases possibles pour dérailler et peut-être ça va être une source de motivation pour devenir encore plus fort. Ou soit tu vas céder aux sirènes de la facilité et à ce moment-là t'achèteras le truc, etc. Donc enfin voilà, ça veut dire que c'est à double tranchant, tu vois. Il y a plusieurs manières de voir le côté positif
ou négatif
dans cette évolution-là, tu vois. Moi maintenant, le seul truc qui me fait peur, c'est que ensuite on arrive, si tu veux, à des écarts de prix qui soient trop importants, ou là on rentre vraiment dans le truc commercial pur, où c'est vraiment le côté un petit peu arnaque, etc. C'est ça que tu vois.
On pourrait avoir le premier MMO fighting. Et là, ce serait la totale, quoi.
Qui se jouerait en ligne en plus. Voilà.
Que en ligne. Et avec un monde qui évolue, mais vous pourriez 40 000 patchs.
Vous pourriez avoir ça. Imaginez d'une certaine manière, si on vient à repenser ça actuellement, quand vous avez un jeu, et c'est là ce que disait Adèle tout à l'heure était très intéressant. C'est vraiment une vision de, quand tu prends, et c'est là que je viens du monde PC pour tout ce qui était compétitif bien avant. Et les jeux avaient l'habitude d'évoluer constamment. Et on a eu des jeux qui ont des durées de vie de 7 à 8 ans, c'est pas plus.
On prend des jeux de FPS qui durent depuis 15 ans maintenant.
Je veux dire, Quake 3 Arena, je joue encore maintenant. Et t'as une version sur navigateur. Tu joues encore à StarCraft, t'as une durée de vie incroyable.
StarCraft.
D'autres jeux, enfin, je vais pas tous les citer, mais je vais vous donner un exemple. J'ai joué à Guild Wars pendant énormément de temps. Guild Wars vit encore. Guild Wars, je sais pas combien de jours. Et à chaque fois qu'on faisait du multijoueur, il y avait des trucs craqués à chaque sortie d'extension. Alors tu raquais ton extension, elle te coûtait la peau du cul, mais elle te tenait un an si c'était pas plus. Et tu faisais tellement dessus que voilà. D'une certaine manière, quand t'arrives en PvP, t'as des trucs qui étaient tellement cheap que les mecs, au bout d'un moment, et même t'allais l'exploiter toi-même, mais ils étaient obligés de le changer. Ça arrive à un moment ou à un autre. Donc si tu viens, c'est que tu compares, on avait l'habitude, ça nous faisait chier, mais tu te disais, ben je vis avec. ça évoluera, et c'est comme ça, c'est le jeu. C'est le jeu, si on veut qu'il perdure, c'est de la manière qu'il va se faire.
C'est ce qui s'est passé avec Street 4 au
voilà,
final.
Voilà, mais d'une certaine manière, quand tu prends ce qui se faisait en fait, c'est pour ça qu'après tout à l'heure je parlais de format, quand tu prends ce qui était le format arcade, c'est que le jeu sortait. Et il était ce qu'il était. Mais même si maintenant on commence à avoir des évolutions avec tout ce qui est cinéma internet.
Je nuancerais ce que tu dis, je suis désolé, et je veux pas insister sur KOF, mais c'est plus ou moins déjà ce qui existe avec KOF. C'est-à-dire qu'à un moment, t'as eu KOF 94, t'as eu ta version 95, t'as eu ta.
97, 98, on peut tous les faire.
Mais oui, bien sûr.
Ce que je voulais dire, c'est qu'à la base, c'est que t'avais l'extension, mais le jeu n'avait pas besoin d'avoir une extension pour évoluer. Deuxièmement, quand on revient sur le MMO Fighting Game et ça, peut-être que finalement, c'est une nouvelle aventure qu'on va avoir, et se dire que. Et ça, j'en reste persuadé, que le log test en salle d'arcade, c'est de la connerie. Pour une seule et bonne raison, vous n'avez pas suffisamment de joueurs. Bah, et que la plupart des plus gros glitches et bugs sont trouvés par des mecs sur les versions qui sortent après.
J'ai envie de dire, les log tests, en l'occurrence, ça ne devrait même pas exister. Puisque si les jeux sont bien programmés, les loops ne devraient même pas apparaître.
L'exemple.
Voilà. Ouais, voilà, donc.
Ça, je suis bien d'accord. Tu prends l'exemple de Skullgirls, qui a un système d'entier fini.
Ouais, mais les gars, je tiens quand même à dire que les programmeurs sont pas forcément les meilleurs des joueurs, tu vois.
C'est pour ça qu'il faut que les joueurs.
On demande pas aux programmeurs. Non, TKO, je suis désolé, on demande pas aux programmeurs d'être des joueurs. Non, les programmeurs restent des programmeurs. Les programmeurs ne sont même pas des informaticiens. Donc des développeurs pardon.
Oui,
donc
un développeur. Ça va leur faire plaisir au mec.
Bah oui, bah ils te le diront tous. Tous les développeurs que je connais, ils me disent, moi je te développe un algorithme sur un bout de papier, un stylo. Donc ils s'en foutent, hein. Ils peuvent faire un environnement 3D avec un stylo et un papier. Et c'est tout.
C'est les MacGyver du
monde. Non mais c'est des vrais développeurs. C'est des développeurs. Il a pas besoin d'ordinateur, un développeur. Il développe sans ordinateur. Voilà. Donc du coup, normalement, si les choses étaient bien faites, s'il y avait un vrai cahier des charges, d'accord, et pas seulement une licence. D'accord, parce que souvent on a une licence mais on n'a pas de cahier des charges. C'est-à-dire on dit tiens on va prendre lui, tiens lui l'année dernière il a bien fonctionné machin. Okay. Et c'est que ça, c'est que du business. Et du coup derrière il n'y a pas un vrai travail technique. Et ça je le vois, c'est le cas.
On peut pas dire ça parce que
non, il n'y a pas un vrai travail
programmer,
technique.
Si, je pense que programmer un jeu c'est pas simple. Et je pense que les programmeurs en fait ils essayent, on va dire au niveau macro, de faire un résultat qui est potable, comme j'ai dit, c'est pas des joueurs, c'est pas des top players qui maîtrisent, etc.
Mais Skullgirls par exemple a été pensé par des joueurs et ça se sent tout de suite. C'est donc le jeu il est prévu pour éviter les loops, il est prévu justement pour ces choses-là peuvent être réfléchies avant.
Mais un programmeur ne fait pas de cahier des charges, d'accord? Celui qui fait le cahier des charges, d'accord, c'est celui qui a le concept. Et là je suis d'accord avec toi sur le principe qu'il faudrait que ce soit quelqu'un qui connaisse déjà c'est quoi un jeu de baston. C'est sûr que si c'est pas c'est quoi un jeu de baston, là je suis d'accord avec toi, le programmeur, il aura beau même être un joueur, d'accord? Lui, il a un cahier des charges, on lui dit voilà, cette ligne de programmation, faut la faire. Cette ligne-là, faut la faire. Faut que j'ai ce résultat-là à la fin. Il me faut une option d'affichage là. Il me faut une option de commande bouton ici. Et c'est comme ça que ça marche. Pareil pour les combos. Pareil pour tout ce qui est gameplay. Les inputs, machin. Tout ça, c'est programmé. Tout ça, normalement, ça devrait être réglé sur du papier millimétré pour moi. D'accord. Ce qui n'a jamais été le cas en Versus Fighting. Jamais.
Quand je t'entends parler, j'ai un peu l'impression, le prend pas mal, mais d'entendre M-Quad qui, lors du cas sur les clarifications de l'ESV, me dit, mais pour qu'un tournoi soit parfait, il faudrait qu'il soit bien organisé. Enfin, je sais pas. Je lui ai posé la question de lui dire, t'as déjà vu un tournoi parfait?
Pas vraiment. Ben non, jeux parfaits, il y en a. Bah, alors pourquoi il n'y a pas un jeu parfait en versus
jeu parfait.
Dans le fighting game? Ça n'existe. Ça n'existe pas à l'heure d'aujourd'hui. D'accord, ils arrivent même pas à équilibrer des castes de 12 personnages.
Mais justement.
Arrêtez quoi. Non,
mais justement, c'est pas simple.
Non.
Imagine
un HK qui fait 300 points de vie. Pourquoi tous les HK feraient pas 300 points de vie et point barre quoi? Pourquoi il y a un personnage qui fait un HK à 100 points de vie? Il n'y a pas de raison.
Parce que Nabil, il y a besoin justement de la diversité. Parce que si tous les
Dans ce cas-là, on déséquilibre. On part dans un principe de déséquilibre. Dans ce cas-là, on ne parle pas de rééquilibrage. On parle de déséquilibrage.
Tous les persos, s'ils étaient les mêmes, il n'y aurait plus aucun intérêt.
Non, pas les mêmes.
T'es bien content.
Pas les mêmes.
Je te donne un exemple. T'es bien content quand t'as un Yoon qui va super vite. En plus, il faut qu'il y ait une logique. Yoon, c'est un petit perso, tac, il est rapide, etc. Ses coups sont rapides, mais il fait pas très mal. Alors que t'as un gros perso.
Oui, mais ça, c'est normal. C'est comme les jeux de voiture où t'as la voiture qui va vite, mais qui accélère pas
donc,
vite. Voilà. Mais pourtant, ils arrivent à équilibrer, c'est bizarre.
Attendez. Attendez.
C'est pas compliqué. Hein. Il n'y a pas de Mercedes craqué qui défonce une Ferrari. Ça n'existe pas.
Attendez, moi,
Il y a une différence. En tout cas, juste pour terminer, il y a une différence entre un jeu de baston et un jeu de course.
Non, mais en termes de programmation, il n'y a qu'une différence.
Attendez.
C'est des 0 et des 1, ça reste la même chose.
Enfin, au-delà de ça, je te parle de la logique.
On va juste laisser Atsel répondre.
En fait, je voudrais juste recentrer le débat sur une chose.
Sur le DLC, de toute façon.
Sur le DLC, mais première chose, tu parlais de jeu équilibré, j'ai un jeu équilibré de données, ça s'appelle Virtua Fighter 5FS. Et pourtant, personne hors du Japon y joue. C'est le jeu le plus équilibré qui existe. Ouais, tous les persos sont différents. C'est tellement difficile d'accès que personne n'y joue.
Mais les gars, j'ai quand même à dire que tu parles du Virtua 5FS.
Mais le F.
Pour qu'il soit arrivé au Virtua 5FS, il y a eu le Virtua 1, Virtua 2, Virtua 3.
Si jamais on va quand même essayer.
C'est-à-dire, c'est une évolution.
Mais j'ai pris FS parce que c'est actuellement la version actuelle. Mais tu prends le 5, c'était la même. Tu prends le 4, ça tourne.
Non, mais je crois qu'il y a eu deux versions avant le FS. T'as eu le 5, t'as eu une version.
Le 5R qui a rajouté deux persos de plus.
Voilà.
Et il y a eu des révisions.
Donc,
c'est un jeu qui est en constante évolution.
Mais ce que je suis en train de dire justement, c'est que tu peux pas faire un jeu parfait directement.
Non, ça,
voilà. C'est exactement ce qui s'est passé avec la franchise des Street Fighter.
Voilà.
T'as eu Street 2, ensuite t'as eu Street 2 Prime, ils ont rajouté les boss. Petit rééquilibrage, Street 2 Turbo, etc. Et à l'époque, comme il n'y avait pas de DLC, parce que comme je l'ai rappelé, on n'était pas dans la mentalité, il n'y avait pas un Internet tel qu'il était, c'était pas dans la mentalité, etc. Bah, ils te sortaient des galettes à chaque fois. Donc, tu devais te. Je te donne un exemple super simple. Tu passes du 2 Prime au 2 Turbo. Ils ont fait quoi? Ils ont rajouté de la vitesse et des coups, et quelques petits coups spéciaux en plus.
Non, il y a eu un vrai rééquilibrage aussi. Il y a un gros travail. Qui est invisible pour le joueur lambda.
Ce que j'essaie de t'expliquer, en tout cas, c'est que, enfin voilà quoi, tu t'as pas eu de perso en plus. T'as eu des petits rééquilibrages, ce qu'on appellerait aujourd'hui des mises à jour. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu devais te taper la galette entière. Tu devais taper le Street Fighter 2 Hyper Fighting. Jeu que j'ai super squatté, l'un de mes jeux favoris, etc. Au passage. Mais voilà, c'est simplement pour te dire que voilà, l'histoire du jeu de combat.
Mais de toute façon,
ça a été des évolutions.
On est complètement.
Ça a été des évolutions.
On est tous autour de cette table complètement
et les
d'accord.
Les jeux se sont bonifiés justement par rapport à ces évolutions-là.
Mais pour recentrer le débat autour du DLC, puisque là, on est en train de partir sur l'explication de ce qui fait un bon jeu ou pas, et je pense que le DLC ne rentre pas du tout en ligne de compte là-dedans. La question est, en fait, quelle est la limite finalement d'un bon ou d'un mauvais DLC? Alors on pourrait dire payant, pas payant, ça justifierait rien parce qu'effectivement il y a des DLC qui il est logique qu'ils soient payants parce qu'il y a un vrai travail derrière, c'est des choses qui sont venues après. Tu parlais de mise à jour, moi ça me choque absolument pas qu'on me dise que voilà, tu avais ton Super Street 4, si jamais tu veux ton Super Street 4 Arcade Edition, il faut que tu rack. Entre guillemets, c'est pas que ça me fait plaisir de payer, mais je trouve ça logique. Je trouve ça parfaitement logique. Ce que je trouve moins logique, c'est quand Ono, quand il sort Street Fighter 4, nous disent on vous fera pas le coup de Street Fighter 2, vous inquiétez pas. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, ça, je trouve ça logique. Ce que je trouve moins logique, et par exemple, l'histoire de BlazBlue, on me disait, mais oui, du coup, t'as ton BlazBlue 2, finalement, avec très peu de choses, parce que le rééquilibrage est offert. Et que tu as juste à acheter les deux persos. Je dis ok, très bien. Moi j'aurais préféré qu'ils nous sortent un DLC avec BlazBlue 2 directement, où on nous dit voilà, dedans tu as les deux personnages de BlazBlue 2, le rééquilibrage, et effectivement ça te coûte le prix qu'ils ont vendu les deux persos.
Mais peut-être que les gens ils n'ont pas envie d'acheter les persos en plus.
Mais ils devraient laisser le choix. Parce qu'il y a une communauté autour de ça.
Justement, ils te laissent le choix.
Non,
parce que le rééquilibrage, ils te le donnent.
Non, il faut que tu le fasses toi-même le choix.
Voilà. Je vais pas parler pour BlazBlue parce que je connais pas, mais je te donne un cas très simple. Là par exemple,
Marvel vs Capcom 3, c'est un cas très simple.
Enfin, j'ai un cas encore plus simple si vous voulez, mais après.
Enfin, moi je te parle du cas qui me vient en tête pour illustrer mon propos. Mais moi, tu vois, par exemple, je vois les persos qui sont DLC. Moi, Billy Kane, il m'intéresse pas. Enfin non, c'est pas Billy Kane qui est. C'est quoi? C'est Kyo,
Yori et Mister Karate.
Voilà, Mister Karate. Moi, Kyo, il m'intéresse pas. Yori m'intéresse pas, Mister 40 m'intéresse. Donc moi je suis bien.
C'est
content.
Étonnant.
Ouais, voilà. C'est peut-être un clin d'œil à mon pote Jean-Pierre Coff. Non, mais c'est simplement pour te dire que voilà, j'ai envie de prendre que ce perso-là. Bah voilà.
Tu peux.
Voilà, là, tu peux. Mais ils ont pensé à toi.
Et voilà. Et tout ça en se disant que bon, ensuite je te dis, La vraie question, c'est aussi de savoir, si tu veux, la pertinence du tarif qui est proposé par rapport au travail qui est effectué. Et tu vois ce que je veux dire,
bah dans l'absolu, le perso, il est à la fois cher et à la fois pas cher. Tu peux considérer que 3,99€, je crois, sur le PSN, Mister Karaté, vu le boulot qu'il y a derrière, c'est pas excessivement cher. On peut considérer ça. Maintenant, on peut considérer que c'est une fortune quand tu vois le prix qui est vendu le jeu avec le nombre de persos qui sont dedans.
C'est vrai que si on fait un peu de calcul analytique, on s'aperçoit que le prix qu'on paye un DLC à l'unité est quand même extrêmement cher. Si on devait acheter le même prix une baguette, je veux dire, on n'achèterait pas de pain.
Tu vois, c'est ce qui est en train de se passer en même temps.
Mais là, des fois, c'est un peu beaucoup. Je prends l'exemple de Arcade Edition. Pour moi, Arcade Edition, c'est pas un DLC payant justifié. Simplement pour la simple raison que 4 personnages, 4 stages, d'accord, ça vaut pas 15€. De lancement au lancement. C'était 15€ à peu près au lancement. Donc du coup, je me dis que c'est à ce moment-là qu'en fait que Capcom, en gros, ils font leur marge. C'est à ce moment-là, parce que les 4 persos et les 4 stages, 4 stages, c'est quoi? C'est rien. Ce qui coûte le plus cher dans un jeu, c'est quoi? C'est de faire le moteur graphique. C'est ce qui coûte le plus cher dans un jeu.
Alors là, on parle d'un jeu 3D, parce que c'est vrai qu'avec les persos de coffre, on pourrait nuancer, parce que le dessin des sprites, enfin, c'est...
Même si ça reste quand même...
Ça te coûte encore plus cher la 2D.
Voilà. Ah oui, on est complètement d'accord.
C'est pour ça
que je dirais qu'on pourrait nuancer, parce que sur les jeux Capcom, là, dans ce cas-là, c'est pas pour critiquer Capcom, c'est beaucoup moins cher de reprendre les personnages en 3D.
Un squelette 3D, il y a plusieurs profils de squelette, il y a le Zangief, la chenille, il y a plusieurs
choses. Je te donne un cas très simple.
Tu
regardes la tête à Sagat.
Ils mettent l'habillement, hein, tout simplement, les textures, les trucs.
Je te donne un cas très simple, hein, que la 3D, c'est quand même la fête. C'est en mode pâte à modeler, tu fais ce que tu veux, copier-coller, etc. Tu regardes la tête à Sagat. Rolento, il a la même tête. Je parle par rapport à Street Cross Tekken, puisque moi j'ai eu des infos à l'époque et ça se voit au niveau du perso que le perso il était déjà prêt à l'époque.
Mais puisque tu me lances là-dessus, est-ce que c'est normal? Alors là, on n'a rien de confirmé, mais au moment où je vous parle, de ce qu'on en sait, a priori il y aurait à peu près 12 personnages DLC.
Je vais dire quelque chose, c'est que Rolento, à la base, même si bon, on sait très bien que Capcom fait du recyclage, Rolento était prévu pour Super Street Fighter 4. Ouais. Et il a été écarté au dernier moment. Donc d'une certaine manière,
peut-être qu'il existe en fait.
Et le truc, si tu regardes bien la tête à Rolento, c'est la même tête que Sagat.
C'est vrai, ça
voilà.
S'approche.
Tu regardes la tête beaucoup, de Seth, c'est la même tête qu'Abel. Les mecs, ils ont pas inventé la roue, tu vois ce que je veux dire.
Il y a des profils, quoi.
Donc ça peut en dire, si tu veux, qu'il y a certains persos, quand tu regardes certains persos au niveau du taf, tu sens, excusez-moi, que c'est du foutage de gueule.
Yin et Yang, c'est un seul perso.
Ils ont fait du copier-coller. Exactement, par exemple.
Yin et Yang, c'est un seul perso, on n'en achète pas, acheter deux.
Par exemple, tu regardes la tête.
Ceci dit, on pourrait dire que c'était déjà le cas graphiquement dans Street 3-3. Le travail graphique n'était pas non plus.
C'est là, on va retomber sur le cas de Coff. Dans 3-3, jeu à l'ancienne, c'était programmé au pixel près.
On est d'accord. Mais le travail, alors je nuance, graphique qui était fait sur un Ryu, un Ken, un Shun, un Akuma ou un Yun ou un Yang, je suis désolé, mais c'est pas le même travail que quand tu dois refaire une Makoto derrière ou une Chun-Li ou etc. Les dessins, ils existent de base.
Oui, non, mais il y a quand même toujours un commencement où tu t'es galéré à faire le truc.
On est d'accord.
Et intégrer une Chun-Li dans un Street Fighter Third Strike, c'est pas, tu reprogrammes tout le jeu.
On est d'accord.
Alors que dans Street 4, c'est... T'inventes un bonhomme et il est dans le jeu.
De toute façon, il suffit de regarder sur PC, Street 4, qu'est-ce que les... gens en ont fait, tout
d'ailleurs,
simplement.
Les gens ont fait quelque chose de beaucoup plus beau.
C'est mieux de jouer à Street 4 sur PC, de télécharger les trucs underground, que de jouer à la version dite officielle. On peut créer ces personnages, les customiser, les habiller totalement, leur rajouter des objets, des vêtements, enfin tout est possible. Donc limite, demain, je crée un nouveau perso, je le vends en DLC.
C'est quoi? Mais justement... Vas-y.
Non, en fait, non, je vous laisse terminer parce qu'après je voulais recentrer le truc sur le DLC en ligne.
Mais vas-y.
Non, c'est la question que je me posais en fait, c'est surtout qu'on est en train de parler DLC des sans lui-même, mais actuellement le truc qui vient souvent, c'est qu'on te dit, on te vend un produit qui n'est pas fini. Or certes, t'as le fait que certaines fois on te vend du DLC qui te file finalement un ratio coût heures d'utilisation qui ça dépend du personnage, mais enfin
Marvel vs Capcom 3, c'est l'exemple parfait du jeu qui est pas fini.
Marvel n'est pas fini, mais d'une certaine manière les deux seuls persos qui sont filés en DLC, même si on les voit peu, sont des persos sympas, et voilà, mais c'est un truc. La différence, elle est, j'en venais pas là, c'est plus à te dire on te vend un jeu, mais on t'annonce directement avant la sortie du jeu que tu vas te coller du DLC et des personnages. Là, t'as cette
Street Fighter Cross Tekken, comme on le disait tout à l'heure, au moment où on vous parle, pour les informations qu'on a, c'est 12 persos DLC. C'est n'importe quoi.
C'est les rumeurs, mais surtout, on les a.
Il n'y a rien de confirmé, attention.
Tu parles des persos en plus de ce qu'on a pu voir.
Oui, voilà.
Ah ouais, c'est marrant quand même.
Mais là, ça serait vendu par pack. La différence, elle est maintenant, c'est.
Pack de 4 personnages.
Il faut peut-être voir le truc plutôt comme ça. C'est qu'on a des jeux finalement qui sortiraient, qui resteraient pendant un bon moment. Et justement à ce moment-là où certains joueurs, ou du moins les développeurs, feraient bon, soit je le mets à jour par mon patch, soit je viens sur du DLC à dire ok, bon bah les gars, vous nous avez demandé ça, vous avez demandé peut-être un ou deux persos, on vous a fait une petite mage, vous pouvez prendre les persos, vous les vend sur un petit pack. Et les mecs font bah je les prends ou je les prends pas. Mais il y aurait la différence entre la demande, c'est à savoir. Et c'est là justement où la question peut-être de se reposer sur le DLC, c'est est-ce que vous partez du principe qu'on vous vend un jeu et que à partir du moment où le jeu n'est pas encore terminé, on va commencer à te marketer 2 à 3 mois avant la sortie du jeu qu'on va te filer du DLC, ce qui veut dire qu'ils ont une équipe à côté qui bosse en annexe.
Ce qui est le cas. Alors là par contre je peux te le dire officiellement, il y a une équipe qui est prévue chez Capcom pour le contenu DLC, voilà. C'est-à-dire qu'en parallèle au développement, ça fait partie de leur nouvelle stratégie de développement, il y a une équipe, l'argent qui est alloué plus exactement au développement, tu as de l'argent alloué pour le développement du jeu proprement dit et l'argent développé pour le DLC.
Et justement maintenant, Kotaljia m'en a rappelé, c'est vrai que c'est peut-être un des exemples les plus pertinents, on a eu avant des DLC qui se vendaient à l'unité, chaque truc, et Mortal Kombat a introduit un nouveau truc qui commence maintenant à devenir une... Il y a eu Gears of War 3, on a eu L.A. Noir, il y en a eu d'autres qui ont fait ça. On commence à avoir un système de seasoning au niveau des DLC. C'est-à-dire que les...
Laisse-le finir.
C'est-à-dire que l'éditeur, le développeur ne va pas se cacher directement à te dire qu'il veut prolonger la vie de son jeu et qu'il va te refiler du DLC. Alors là, au moins, tu le sais, banco, direct. Mais à partir de là, en fait, on va te proposer une offre. C'est-à-dire que tu vas payer ton truc, je crois que c'est 33-40% moins cher que le prix total, mais tu vas banquer direct pour le pass d'entrée. Mais t'as tout au fur et à mesure que ça sort, sans pourtant savoir ce qui va sortir. Et c'est un nouveau business model qui se développe, hein. C'est-à-dire que beaucoup d'éditeurs commencent à céder au truc, et on l'a vu avec Gears 3 récemment, il y a eu les Noirs qui nous l'avaient fait avec les quêtes supplémentaires, on a eu Mortal Kombat qui a fait ça pour la baston, c'est le premier jeu qu'il a fait.
Alors moi, je vais rebondir sur ce que tu dis et poser la question suivante. Est-ce que le modèle de la compétition du jeu de combat tel qu'il existe à l'heure actuelle cadre un modèle économique qui s'appuierait sur le DLC ?
Le souci, en fait, c'est pour ça que je venais tout à l'heure à vous parler du truc avec le PC, c'est qu'actuellement, si on vient à parler de compétition... compétition vraiment pure et dure sur du jeu de combat et qu'on vient à l'implanter dans des ligues, parce que c'est actuellement le futur, on va peut-être être dans les ligues, c'est-à-dire si on veut du professionnalisme et de ça au niveau de ça, il y a peut-être un moment ou un autre, il va peut-être falloir réfléchir à faire évoluer le support du jeu de combat et peut-être le faire partir de son support d'origine qui était l'arcade pour le faire transiter sur l'ordinateur. Et c'est à partir de là.
C'est ce qui existe déjà plus ou moins avec le nouveau système d'arcade. On parlait du Nessica.
Voilà, mais certaine manière, ça serait un truc. On aurait une espèce de plateforme évolutive et finalement qui peut-être se rapprocher de ce qu'expliquait Nathan il n'y a pas longtemps avec Dota et ça, où tu as ton roulement de truc. Mais d'une certaine manière, ce serait le fait que ce serait la plateforme où tout le monde aurait la même plateforme. Tu n'aurais pas le problème de rétro-compatibilité. Tu n'aurais pas à te dire j'achète mon truc, mais il ne me servira plus rien parce que je passerai sur une autre console et je ne sais même pas si le truc ça prend en compte. Qui, d'une certaine manière, apporterait une sorte de pérennité et tout le monde serait sur la même base. Après, de voir comment le truc évoluerait, c'est-à-dire si on mettrait du DLC ou pas, ça reste un autre problème, mais l'évolution du truc, ça pourrait poser une base.
Après, donc une plateforme, entre guillemets, peut-être multiple, mais sur un soft qui serait unique sur toutes les plateformes.
Ouais, je pense que le multiplateforme, c'est quelque chose qui va avoir tendance à se centraliser d'une certaine façon,
à fusionner,
voilà. Et du coup, je pense que c'est aussi quelque chose qui va se faire à l'avenir. De toute façon, dans les différents modèles qu'on peut avoir commerciaux, dans les différents modèles commerciaux, je pense que celui-là, ce sera celui qui s'imposera
de lui-même,
parce que d'une certaine façon, oui, les gens aujourd'hui, ils cherchent, comme il disait TKO, la simplicité. Ils veulent pas se prendre la tête à acheter, machin, se déplacer peut-être en magasin, etc. Donc du coup, c'est vrai que les plateformes vont fusionner, les jeux vont devenir, comme ils vont tous se programmer de la même façon dans le futur, on va être obligé de passer par là. Il y a aussi une autre chose qui est aussi des travers de ce système qui peuvent être un peu dangereux, c'est que comme disait tout à l'heure, il y a un problème dans le fait qu'on achète ces packs, ces fameux packs où il y a déjà tout dedans, plus cher en fait que le jeu, si on achetait le jeu tout seul. Parce qu'au final, on va nous vendre que ça. Et au final, les jeux auront augmenté, tout simplement. Au lieu d'acheter un jeu à 70€, ce qui est déjà cher, hein, rappelons-le, ou 50€ pour les jeux de combat, c'est vrai que des fois on peut trouver des jeux à 50€, là on va les acheter peut-être 100€, 120, 150, on ne sait même pas jusqu'où ça va aller, puisqu'on ne connaît pas la limite. Si, imaginons que Capcom décide de sortir un jeu avec 3 ans de DLC. On fait comment ? Voilà, on va pas acheter le jeu 500€. C'est et c'est ça un peu
ouais,
aussi
le gars, le bas blesse. Quoi. N'oublions pas qu'on est dans un monde de liberté. Enfin,
voilà, ah quoi. Oui, bien sûr.
Si tu veux, de toute façon, tu as la liberté.
Tu veux télécharger, tu télécharges. Si tu veux pas, tu télécharges pas.
Voilà. Ouais, mais par contre,
ces éditeurs-là, malheureusement. Enfin voilà.
Ça marche pour le joueur lambda.
Ça me fait pas plaisir, mais voilà, ça marche.
Mais pas pour le compétiteur.
Ça marche pour le commerce, c'est-à-dire il y a des éditeurs. Il y a une certaine époque, c'était la misère pour eux. Et avec ce nouveau système-là, ça leur permet d'exister et de pouvoir peut-être continuer à exister, à produire de nouveaux trucs. Enfin voilà, c'est-à-dire que. Enfin voilà, ça me fait pas plaisir. Mais voilà, c'est une réalité. Donc première chose.
Là, on est d'accord. On est tous d'accord.
Deuxième chose très importante. Et pas un cas flagrant, je suis désolé, mais je vais revenir sur le cas de KOF. Ok ?
Vas-y, pas de soucis.
Qu'est-ce qui s'est passé avec KOF ? Entre le 11 et le 13, il y a eu le 12. Pourquoi le 12 est sorti ? Parce qu'il y a eu Street 4. Sauf que quand Street 4 il est sorti et qu'ils étaient obligés de porter une riposte,
On peut dire que c'était la première fois réellement qu'SNK rushait un jeu comme il l'a fait. C'est un truc qu'il n'avait jamais fait avant.
Donc, si tu veux, malheureusement, ils ont été obligés de rusher le jeu. Et d'en arriver là, sortir un jeu qui n'était pas fini, etc. Donc malheureusement, de toute façon...
Il serait mort sinon, de toute façon, s'il ne l'avait pas fait. Hein.
Mais voilà, ça veut dire qu'ils ont été obligés, si tu veux, d'être là, de montrer qu'ils existent, etc. Ils n'ont pas eu le temps de terminer ce qu'ils voulaient faire proprement, etc. À l'époque, je me rappelle, on parlait Kadash, etc. Il y avait les trucs, etc. Enfin voilà, ça veut dire que quelque part, ça leur a permis, si tu veux, d'occuper le truc. Ils se sont un petit peu ramassés en même temps, mais... Et on va dire que la flamme est encore un petit peu allumée et ils se sont... Et justement, cette erreur-là leur a permis de comprendre la voie qu'il ne fallait pas suivre par rapport aux fans, aux aficionados vis-à-vis du système, etc. De se recentrer sur un produit plus fini, d'aller vraiment dans le sens de ce que les gens attendaient, etc. etc.
S'ils avaient loupé KOF 13, enfin c'était...
Pour faire le produit fini qui est KOF 13 et que tout le monde apprécie au niveau de la chose, etc.
On va laisser répondre Rikyu.
Et juste pour terminer... Quand tu vois le résultat de KOF 13, si on est sérieux autour de cette table, tu te dis pas dans un an ils vont te sortir KOF 14.
Parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Ils peuvent pas.
Ils n'ont pas les moyens et de deux, l'effort titanesque qu'ils ont dû mettre pour arriver à te faire KOF 13, enfin les mecs, déjà, je pense que là ils vont respirer, et de deux, c'est un peu comme une œuvre d'art, c'est-à-dire quand t'as bien peaufiné le truc dans son ensemble, t'as plus forcément besoin de ressortir une énième version. Ensuite, c'est des petits coups de pinceau à gauche, à droite pour réajuster le truc, rajouter des persos en plus pour rajouter.
Mais ça me dérange pas qu'ils sortent un KOF 13-2 hein, dans l'absolu.
Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc ensuite, voilà, si c'est des petites touches, etc. Alors effectivement, je suis d'accord avec toi. Si tu fais un calcul en termes de proportion du truc, c'est clair que par rapport au prix originel du jeu où ta galette elle t'a coûté 60€.
Mais c'était déjà qu'à avant. On prend l'histoire de Street 2, Street 2 Dash, etc. Ça change pas.
Avec tous les stages, etc., les musiques, etc. C'est clair que payer ton perso genre 3 balles, bah tu vas l'avoir mal parce que tu vas te dire
mais
que
c'est plus 4€. Mais
oui, enfin, on va pas chipoter au niveau de la devise. Mais
c'est vrai que si tu dois acheter 3 persos, du coup ça commence à faire cher l'euro.
Mais c'est simplement pour dire, juste pour terminer, que voilà, quand t'as un produit fini qui est quand même beau et où il n'y a pas forcément besoin de tout chambouler, où t'as juste besoin de petits trucs en plus et qu'on te donne la possibilité de télécharger le perso qui te fait plaisir, moi personnellement ça me choque pas. Par contre, quand c'est des jeux
Ensuite, je suis pas fan de Marvel versus Capcom, etc. Où c'est un petit peu du n'importe quoi, truc. Où t'as des.
Non, mais bon, on va pas juger de la qualité du jeu ou pas. Là, on parlait de DLC, mais. Non,
mais ce que je veux dire, c'est que tu sens que, voilà, là, effectivement, pour pouvoir gagner, faut que tu prennes le dernier perso parce que c'est, ça va un petit peu dans tous les sens, etc.
Non, pas forcément. C'est-à-dire que.
Je sais pas. De toute façon, attends, juste deux secondes. Je voudrais qu'on laisse répondre Rikyo qui voulait dire quelque chose tout à l'heure.
Ouais, juste par rapport donc au DLC. C'est juste justement par rapport aux DLC que j'appelle les DLC de customisation. En effet, ils sont pas intéressants. Enfin, il est libre à vous de les acheter ou pas. Mais ce qu'a fait Capcom là récemment, c'est que ils ont décidé de justement cacher à l'adversaire la visibilité du costume alternatif. Du fait que vous n'avez pas acheté justement ce costume. Alors, qu'est-ce que ça implique ? Si tu n'as pas le pack de costumes que tu n'as pas acheté, si tu joues sur le live et que tu n'as pas ce costume, tu ne peux pas avoir celui de ton adversaire. Ah d'accord, mais c'est venu après.
Non, juste si tu peux réexpliquer parce qu'on n'entend pas.
Donc il y a un DLC qui permettait, un DLC alors gratuit qui permet donc de voir les personnages qui sont de l'adversaire qui ont un costume alternatif.
Et tu ne peux pas le choisir si mais tu ne l'as pas acheté. C'est normal, si ça. Voilà. C'est normal.
Donc ça c'est du fan service ou autre, ce que vous pouvez appeler, bref. Alors, ouais. Enfin, bref, de la thune, quoi. Moi, je trouve que le plus important pour un jeu, c'est sa durée de vie. Et ça, il n'y a pas 10 millions de solutions. Pour moi, c'est l'ajout de contenu essentiel. Donc, les personnages, ça, il n'y a rien à dire. Et, à la rigueur, les rééquilibrages.
Éventuellement, des modes de jeu supplémentaires, ça...
Mais par contre, le rééquilibrage, je pense que ça, c'est un truc qui est vraiment dur à faire. La chose qui a été vue et qui a été faite aussi bien par SNK que Capcom, c'est qu'ils ont proposé deux fois l'un de leurs jeux directement au public, en version galette, pour faire une mise à jour arcade, pour reproposer cette mise à jour arcade qui a été rééquilibrée en console, via DLC. Et ça, je pense que c'est l'avenir des pseudo-locktests. C'est-à-dire qu'on se passe des lock tests
où arcade.
Arcade, où on va mobiliser des salles.
Ou c'est le joueur qui finalement fait le lock test, en fait.
Voilà, c'est le retour des joueurs qui va faire qu'on va avoir des rééquilibrages sur la version console. Et les rééquilibrages se font sur la version arcade. Et ensuite, un DLC console qui vient pour rééquilibrer le tout. C'est pas plus mal comme modèle. Et je pense qu'à l'avenir, on n'aura que des modèles comme ça sur des bases de retour communautaires.
Alors là, ça c'est viable éventuellement sur un public visé qui est le nôtre, mais le modèle dont parlait TKO tout à l'heure qui colle parfaitement du coup aux joueurs lambda. Moi je suis pas un bon joueur de KOF, il y a le petit perso en plus, je l'achète. Moi je reste persuadé du coup que ce modèle là malheureusement, vu de ma fenêtre, ne colle pas à notre communauté. Bon, maintenant je peux totalement me tromper. Mais du coup, pour terminer, parce que là, ça fait un peu plus d'une heure dix qu'on est ensemble.
Il y avait juste un point, en fait, pour terminer, justement. Je pensais que c'était peut-être le truc qui permettrait de voir qu'est-ce qu'on pourrait avoir, justement, dans le futur au niveau des DLC. Il faudrait juste s'intéresser au cas Street Fighter Cross Tekken et de Skullgirls, qui, l'un comme l'autre, ont bien fait comprendre. Enfin, Skullgirls, on le sait clairement, parce que c'est un jeu téléchargeable qui ne sortira pas sur Galette, et qui sera mis à jour, et notamment qu'il y aura des personnages en DLC. Seule différence, c'est que c'est un studio indépendant. Et qu'on sait clairement qu'on va payer notre jeu 15€ et que les persos arriveront au fur et à mesure. On ne sait pas encore s'ils les feront payer ou sûrement payer. Mais
bon, il y a de fortes chances que ce soit payé.
D'une certaine manière, c'est là encore que ça remet la cause. C'est-à-dire qu'on sait que Capcom nous revend des jeux, ils nous filent des DLC, on va les traiter de voleurs. Et t'auras par exemple, on a vu le cas avec KOF, où KOF, les gens trouvent ça normal parce que sinon on les serait crevés SNK. Ça, c'est une parenthèse, bon, on s'en fout. Par contre, sur Street Fighter Cross Tekken, le truc, c'est qu'on nous a bien annoncé, et toujours tous les gens maintenant actuellement disent, en reparlant de Capcom, le jeu va sortir. Oh non, t'inquiète pas, t'attends dans 10 mois, t'auras une deuxième version super avec tout le monde. Là, les mecs, ils ont très clairement dit, notre jeu n'aura pas de version super.
Oui, c'est un nouveau modèle économique.
Et là maintenant, comment on fait ? C'est-à-dire que, enfin, t'as le point de vue compétiteur et le point de vue des autres, mais c'est-à-dire, est-ce que tout le monde aura une version différente ? Et qu'est-ce que tu viens du moins à envisager pour ce modèle de DLC? C'est-à-dire que tu auras une version, et là on revient sur le cas de Mortal Kombat, parce que les gens gueulaient parce qu'il y a 4 persos supplémentaires et des patchs. Imagine si t'as 4 packs de persos à chaque fois. C'est-à-dire un jeu, tu vas le payer, c'est-à-dire que je crois que le pack, si on suit les rumeurs, sachant que bon, rien n'est encore confirmé, ça reviendrait à 5-6 euros, c'est ça, je crois.
C'est ce que j'ai entendu, oui.
Voire peut-être un peu plus. Le pack de 4, ce qui finalement, d'une certaine manière,
te fait payer 2 jeux en fait.
Et pas si cher payé si tu reprends le perso Lundi qui a été vendu 400 MS points, ça revenait à 4 à 5 euros. Donc il faut encore relativiser le truc. Mais on se retrouvait finalement avec toi et ton jeu.
Et mais, 15 euros de plus à débourser pour tous les personnages.
Tu aurais peut-être facilement, en fonction de tout ce qu'on te vendra, hein, c'est-à-dire pas forcément les personnages et tout le reste, mais tu auras peut-être la moitié du jeu, voire peut-être plus, qui sera sur un truc. Mais là, c'est-à-dire, c'est est-ce que je fais vivre mon jeu et où est-ce que je vais. Mais ça, c'est déjà un modèle qu'on retrouve avec des jeux comme Call of Duty. Hein.
Juste pour nuancer en fait ce que tu disais tout à l'heure, moi, on est bien d'accord que je n'appelle pas Capcom des voleurs parce qu'ils font ça. Moi, je dis que là encore, rien ne t'oblige à acheter le DLC si tu ne le veux pas. On ne te met pas le couteau sous la gorge. Là, ce qui m'embête par rapport à l'histoire des personnages, c'est que si jamais tu es dans la communauté du jeu de combat et que tu veux te tenir à jour par rapport aux autres joueurs, là, effectivement, il y a un moment donné où tu suis ta conscience jusqu'au bout et tu te dis non, je boycotte ça parce que j'aime pas le principe, je le fais pas, mais tu passes à côté de quelque chose qui risque de te pénaliser à haut niveau.
Ben, je suis d'accord, mais le truc il est simple, c'est que il y a deux types de jeux. Tu vas voir le jeu qui est vraiment 100% commercial. Street Cross Tekken, c'est quoi? C'est les deux plus gros éditeurs de.
Mais il sera joué au niveau.
De combat.
Il sera joué au niveau.
Qui veulent pas se marcher sur les pieds et qui se disent tiens, on va s'unir, on va faire encore plus de thunes à deux. Ben voilà, c'est du truc, c'est du commerce. Tu vois. Et c'est des jeux du guac. Je crois qu'on a eu l'occasion
mais, de. Mais qui va quand même être joué au niveau.
Peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des jeux du guac, quoi.
Et
c'est
on est d'accord que si jamais il y a des persos qui plaisent en DLC, il y a un Cody ou un Guy qui plaît en DLC, ouais, par exemple, les gens, ils vont l'acheter. Ils voudront absolument que quand il y aura les organisations qui soient faites, que le jeu soit là.
Je pense qu'il y a aussi un débat qu'il faut se poser vis-à-vis...
De la communauté.
De la communauté, si tu veux, mais aussi de la catégorie de joueurs à qui on s'adresse. Tu vas voir le mec lambda qui va jouer vite fait pour s'amuser, etc.
Ce qu'on disait tout à l'heure.
Et tu vas voir peut-être le mec pro qui va jouer et... Enfin voilà quoi. Ce que je veux dire, c'est que le mec pro, il va gagner sa vie peut-être en faisant des tournois. Et encore, c'est un euphémisme, c'est un petit...
En France, il n'y a personne qui gagne vraiment sa vie en faisant de...
Voilà, il y a quelques élus qui gagnent leur vie comme ça. C'est pas le cas de tout le monde. Donc, enfin voilà quoi, je pense qu'il faut... Faut bien faire la distinction entre le jeu qui est vraiment 100% commercial, où c'est que ça, et ensuite tu fais ce que tu veux, et ensuite, suivant la mobilisation des masses, ça veut dire que là, on peut se poser la question entre nous en se disant c'est bien ou c'est pas bien, mais si c'est le peuple, entre guillemets, qui le demande et qui cautionne ça, est-ce que nous, on va empêcher ce qui se passe?
Ah non, on n'empêchera rien du tout.
Il n'y a que la masse qui va se révolter en disant hey, les gars, vous foutez de notre gueule là. Vous êtes en train de nous mettre votre banane sur 14 mois avec truc pour nous faire payer 200 euros votre jeu au final, etc. Les gens, ils se réveillent, ils cautionnent pas le truc. Et les mecs, ils disent « Ah, on a peut-être poussé le bouchon un petit peu trop loin ». Ils revoient leur politique et voilà.
Mais donc, est-ce que c'est pas à la communauté de joueurs professionnels de peut-être expliquer aux éditeurs qu'il y a certainement des abus qui sont faits de ce côté-là?
Le problème, c'est que c'est peut-être la communauté qui a demandé ça. Ça veut dire que...
Il faut aussi dire que c'est un plan, un business plan rentable, rapidement.
Très rentable.
C'est-à-dire que, voilà, on a une période de... On sait, comme tu disais, tu donnais l'exemple de KOF 13 et de KOF 12. Pour moi, KOF 13, c'est KOF 12.5.
Mm-hmm. Non, mais...
C'est ni plus ni moins.
Moi, je parle même pas de KOF, parce que pour moi, je trouve que c'est un cas particulier.
Oui, bien sûr, c'est un cas particulier.
Mais juste Super Street Fighter 4. Oui, voilà. Super Street Fighter 4, arcade édition. Voilà, t'as gagné un an de vue de ton jeu sur toutes les communautés.
Et en plus, tu t'es fait retourner le live.
Ce que je veux simplement rajouter...
C'est aussi simple que ça.
Ce que je veux simplement aussi rajouter, c'est que... Enfin voilà, c'est la crise. Tout le monde n'a pas les moyens de mettre 60 balles, 70 balles dans une nouvelle galette
mais
tous les 2, 3 mois, 6 mois, etc.
Mais pour rebondir...
Et pour certains, acheter des petits persos par-ci, par-là, même si c'est de la carotte, si tu regardes le prix que tu dépenses, etc., bah ça passe mieux que de balancer 60 balles d'un coup, tu vois. Et en plus, comme on l'a dit, t'as la liberté, t'as le choix, tu prends le perso que tu veux ou que tu veux pas, voilà.
Sincèrement, je cautionne pas tout ça, etc. Maintenant, pour certains cas où tu as des jeux qui sont globalement très bien finis, etc., où, comme je l'ai dit, il y a besoin de quelques petits rajustements. En général, les rééquilibrages sont gratuits, donc ça, tout le monde est au même niveau, tu vois. Et ensuite, tu as des persos en plus, à toi de voir si ça t'intéresse ou pas. Voilà. Mais ensuite, c'est clair qu'il y a toute une autre partie de jeu où c'est vraiment du pur commerce, où je cautionne pas vraiment, mais voilà. Ensuite, il y a que les consommateurs qui, de par leur mobilisation en boycottant ou en approuvant tel ou tel jeu, vont faire en sorte que ça change, quoi.
Bon, donc pour finir ce podcast, donc pour vous, le DLC, c'est le futur standard du jeu de combat.
Il peut le devenir, mais c'est pas un format qui sera forcément apprécié.
Je pense que la dématérialisation, c'est l'avenir. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire ça. Après, que le modèle qui consiste à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, de patch, de perso en plus, de stage en plus, de contenu en plus, de petits trucs en plus, de couleurs, de costumes, etc. Ça, je pense que ça va évoluer. Je sais pas trop où, mais il va y avoir une évolution. Je pense que les choses ne pourront pas rester comme ça. Ne pourront pas rester comme ça, sachant que en plus, ça peut aller très loin, et ça va déjà très loin dans certains jeux, où on se retrouve avec des gigas d'installation. Il y a des gigas entiers, quoi. Et quand t'as 2 mégas, que t'es à la campagne, ben c'est chiant si t'as perdu ton disque dur.
moi personnellement, pour terminer, je sais pas si c'est l'avenir. À partir du moment où on a la liberté de pouvoir y avoir accès, tant mieux. Comme je l'ai dit, si ça permet de peaufiner des œuvres qui, pour moi, globalement, sont des beaux produits finis qui nécessitent quelques petits bonus en plus pour faire plaisir aux fans. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup. Quand ils ont vu Yori sans flamme, ils étaient... Ils ont fait Yori truc nanana avec flamme. Ouais, trop super.
Enfin, c'est l'un des persos les plus téléchargés.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça fait plaisir aux gens. T'es pas obligé de racheter un truc. Donc, voilà quoi. C'est...
Maintenant, c'était clairement du fan service.
Sincèrement pas, parce que je suis un pro arcade, etc. qu'on en arrive quand même à ce format-là. Parce que, comme l'a dit Nabil, même si le but c'est peut-être d'essayer de faire quelque chose de plus complet directement, ça sera jamais parfait, mais j'aime bien le côté de t'as créé un environnement global.
Sachant que ça fait déjà du mal à l'économie réelle. C'est-à-dire que j'ai vu un article qui disait que la moitié des games allait fermer. Donc il y a aujourd'hui les salles qui vendent les jeux, les magasins Games ferment la moitié de ces salles, d'après ce que j'ai pu lire dans un article où en tout cas une partie en Angleterre, une partie en tout cas l'Europe est très touchée par la crise du dématérialisé. Hein.
Mais l'arcade aussi. Hein.
Et l'arcade l'a été par la console, d'une certaine façon.
Ouais, clairement mieux vendre des galettes à des millions de gens que se prendre la tête à
vendre des cartes à quelques milliers de salles.
À des mecs qui ont des salles et ça leur coûte des...
Et donc en fait le modèle...
Il y a du SAV à gérer derrière, etc. Et c'est des puces.
Donc le modèle économique en fait est complètement en train de changer. Pour l'instant on est un peu le cul entre deux chaises en fait. Atsal, pour finir.
Pour finir, donc tout ce qui est donc contenu téléchargeable, je veux dire dans la globalité, je ne vais pas rester sur le DLC en lui-même qu'on présente toujours comme tout ce qui est petit ajout payant ou non, sur genre un costume et ça. Donc là, enfin tout ce qui est ajout, mise à jour et ça, je suis persuadé que c'est bénéfique pour tout un tas de jeux et notamment le jeu de combat, et ça sera sûrement quelque chose qui va se répandre encore plus dans l'avenir. Cependant, dans tout ce qui est actuellement le système de vente, et de tout ce qui est à jour, actuellement le modèle ne convient absolument pas. Et c'est justement ce modèle qu'il va falloir voir évoluer si on veut d'une manière plus ou moins cohérente de voir évoluer des jeux et de leur permettre justement d'avoir une pérennité dans l'avenir et tu vois, une durée de vie suffisamment étendue sans avoir à se dire que...
Qu'on se fait arnaquer.
Exactement.
Tout simplement qu'on se fait arnaquer parce que c'est le sentiment qui vient souvent. C'est-à-dire que moi, il y a des jeux, je les ai carrément zappés parce que je sais qu'il y a du contenu. Je le dis clairement. Hein. Et si le contenu est payant, c'est fini. Enfin, pour moi, je pars du principe que n'importe quel jeu, hein, je parle même pas des jeux de combat, un jeu, je l'achète. D'accord, on me donne un contenu supplémentaire. Merci. Voilà. J'ai juste à dire merci. Parce que j'ai déjà acheté le jeu. J'ai déjà acheté plein pot le jeu. Je pense que dans le modèle des éditeurs, ils devraient incorporer dans le prix du jeu directement le DLC. Pourquoi ils ne le font pas? Ils font un peu comme les téléphones portables, les abonnements. Ils vous vendent l'abonnement, ils vous vendent le téléphone à crédit derrière et ils ne vous le disent pas. Donc c'est un peu le même concept. J'ai l'impression que c'est assez malsain. Moi, je vois un côté malsain qui peut être fait. Autant ça peut être quelque chose de très positif pour les correctifs, pour tout ce que vous avez dit. Autant ça peut aller de façon très malsaine en mode Bouygues Télécom. Quoi.
Donc on est vraiment le cul entre deux chaises.
Je pense qu'on va bien se mettre avec Bouygues Télécom après ce
C'est bon. On a encore Valentin qui est encore chez.
Voilà, mais d'une certaine manière, si on veut vraiment comparer au niveau des DLC, je pense que je vais terminer là-dessus. Ce qu'on a vu dans les DLC, je veux dire tout ce qui est payant et ajout en jeu de combat, est une des très mauvaises visions et un très mauvais côté du DLC. Et j'ai envie juste de terminer là-dessus pour comparer. Prenez tout ce qu'en fait Rockstar pour GTA, c'est l'exemple même de ce qu'on appelait l'add-on sur PC. Wow. Tu payes 15 boules, t'as un truc, t'as 30 heures de jeu si c'est pas plus avec un mode multijoueur repensé et des ajouts. Ce truc-là, ça devrait redéfinir et même définir à lui seul ce que devrait être un DLC sur console.
Mais écoutez, messieurs, merci beaucoup pour vos interventions. Si je peux juste vous demander rapidement de présenter vos sites internet ou vos activités pour faire votre propre publicité.
Et donc, moi, Rikyo, du site signbyr.com, site de la communauté SNK. Donc voilà, nous traitons l'actualité et mettons beaucoup d'infos à disposition pour tous les joueurs de différents jeux SNK. Voilà.
Un TKO, du Versus Dojo, salle d'arcade parisienne, pionnière de la nouvelle génération 2.0, toujours présente lors des différents événements arcade ou même des différents événements tout court avec la World Game Cup, le Stunfest et l'European Street Battle que je vous annonce. Nous allons organiser la seconde édition pour cette fin d'année 2012 au mois de novembre.
Et moi, c'est Nabil à Caraneo Chrome, administrateur sur Fightplay et organisateur de tournois online de jeux de combat. Voilà, que vous pouvez retrouver sur fightplay.fr. Donc, on fait tous les jeux de combat possibles et imaginables qui existent sur le marché.
Écoutez, merci encore. Juste préciser donc qu'on enregistrait pendant la War Game Cup, donc il y a eu un petit peu de bruit un petit peu partout, des gens qui rentrent, des gens qui sortent, etc. Voilà, en tout cas, c'était un très grand plaisir pour moi de vous avoir avec moi autour de cette discussion qui est forcément polémique parce que voilà, oui. C'est beaucoup de passion autour de tout ça. Et voilà, j'espère que cette réflexion aidera également peut-être les éditeurs à faire avancer le débat en espérant qu'il y ait une vraie volonté de tous aller dans le même chemin. Merci beaucoup à tous.
Merci à vous.
Merci. Merci.